Dieu. Le message que je voudrais vous partager ce matin, je l'ai intitulé « Tu me rends vainqueur ». Nous allons parler de David. Vous savez que David, c'est le bien-aimé, c'est ce que cela veut dire, le bien-aimé. Et nous sommes bien-aimés du Seigneur, nous sommes aimés de Dieu, je ne sais pas vous, hein, mais moi je me sens aimé de Dieu. Je me sens aimé du Seigneur, je me sens vraiment avec le regard de Dieu sur ma vie. Je sais que Jésus est mort à la croix pour moi, il m'a pardonné de mes péchés. Alors je suis aussi le bien-aimé du Seigneur. David est second roi d'Israël et tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus grand de tous. Quelqu'un qui a marqué son époque, quelqu'un qui nous a interpellés au travers, je dirais, au travers de ses messages, au travers de sa vision, au travers de ce qu'il a vécu. Et croyez-moi, il a vécu des choses extraordinaires. Que dire de cet homme ? C'est un homme selon le cœur de Dieu. Et moi, je veux croire que nous sommes selon le cœur de Dieu. C'est un homme choisi de Dieu. Et moi, je veux croire que nous sommes choisis de l'Éternel. C'est un homme oint par Samuel. Il nous a dit dans 1 Samuel 16-13, « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Nous, nous sommes oints de Dieu. Nous avons été oints de l'Éternel. Nous avons été oints de notre Seigneur, de notre Sauveur. Un homme qui avait, comment dirais-je, tout pour être vainqueur, mais il lui faudra plus de 13 ans pour accéder au trône. 13 ans pour que ce oint de l'Éternel puisse achever complètement, totalement l'appel de Dieu sur sa vie. Un homme qui avait reçu sa royauté, mais qui n'était pas sur le trône. Un homme qui a reçu le sceau divin, mais qu'il lui faudra 13 ans pour pouvoir monter sur ce trône. Pourquoi ? À cause d'un homme, Saül, qui lui, à contrario, fut un roi déchu. Ça fut un roi rejeté par Dieu. Un roi qui n'avait plus d'onction. Un roi déchu qui empêchera pour un temps un nouveau roi de régner sur Israël. Et ce nouveau roi, ça sera David. Il va empêcher pendant 13 ans cet homme, le roi David, à accéder au trône, à accomplir la volonté de Dieu. À accomplir le message, la vision de Dieu sur sa vie. Un roi déchu. Alors que Paul affirme dans Romains chapitre 8, verset 39, que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez ce que ça veut dire, être plus que vainqueur ? Parce qu'une fois que vous êtes vainqueur, on ne peut pas faire plus. Hein ? T'es vainqueur, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Mais non, la parole de Dieu nous dit que tu es plus que vainqueur. Ça veut dire que tu es vainqueur et tu le restes. Et tu te positionnes en tant que vainqueur. Tu t'assois en tant que vainqueur. Personne ne va te reprendre ce que tu as reçu. Quoique, si on laisse passer l'affaire, le diable peut reprendre ce que tu as gagné. Mais la parole de Dieu nous dit, quand on est positionné avec Dieu, on est plus que vainqueur. C'est-à-dire, on s'empare des promesses, on les garde dans notre vie. On les saisit dans notre cœur. Alors l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. David est oint. Nous sommes oint. Alors comment se fait-il que chez certains chrétiens, le péché règne sur leur vie? Comment se fait-il que les difficultés règnent sur leur vie, que les épreuves règnent sur leur vie, que les obstacles règnent sur leur vie, alors que l'apôtre Paul déclare que nous sommes plus que vainqueurs? Comment se fait-il qu'il y a un décalage entre ce que nous citons dans les Écritures et ce que nous vivons parfois? Comment se fait-il qu'il y a comme quelque chose qui cloche entre la parole citée et le vécu? Parce que nous sommes poursuivis par le vieil homme, Saül. Saül qui a été vraiment l'épine sous le pied de David pendant 13 ans. Ce Saül qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Ils vont de caverne en caverne, de désert en désert, comme David, c'est une fuite en avant. Certains chrétiens qui, en sachant que Jésus est plus que vainqueur, ils s'enferment dans les cavernes. Ils sont plus que vainqueurs, mais ils fuient dans le désert. Et ils vont de désert en désert, de difficulté en difficulté. Ils sont là comme isolés, renfermés dans leur coquille et dans leur défaite. Alors qu'on a un Dieu de victoire, alors qu'on a chanté ce Dieu de victoire, alors qu'on a proclamé ce Dieu de victoire, alors qu'on le confesse ce Dieu de victoire, mais on ne le vit pas ce Dieu de victoire. Et David, qui était loin de Dieu, ne pouvait pas monter sur ce trône de gloire et ne pouvait pas non plus confesser ce Dieu de victoire. En tout cas sur sa vie. en tout cas sur son cœur. Une question se pose. David est roi. En tout cas, il a été déclaré comme cela auprès de Samuel et devant son père, devant ses frères. Il est roi, il a reçu l'onction divine, on l'a lu tout à fait au début. Mais il est reconnu aussi par Dieu, il est reconnu aussi parmi ses frères, mais personne ne lui permet de régner. Personne. Des années de difficultés, des années d'épreuves, de combats, de patience, de pleurs, de larmes. Et c'est parfois ce que certains chrétiens vivent. Des promesses pas réalisées, des bénédictions qui sont là à se faire attendre, avec des larmes, des pleurs, avec des combats. Pourquoi nous arrive-t-il de subir? Alors que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains au chapitre 5, verset 17, peut-être que vous êtes passé devant ce texte sans forcément vous y arrêter quelques instants. Alors on va s'y arrêter quelques instants. Il est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don régneront dans la vie par Jésus-Christ. David ne règne pas, pourtant la parole de Dieu nous dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don régneront dans la vie par Jésus. Certains chrétiens ne règnent pas, ils subissent la vie. Ils subissent la vie. Nous n'avons pas été appelés à subir, mais à dominer. Nous n'avons pas été appelés à être écrasés, mais à être relevés. À régner avec Christ, comme il est dit dans ce passage. Et ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, avec Jésus. Et c'est là où je me dis, mais il y a peut-être quelque chose qui cloche dans notre vie. Trois versets que je viens de vous citer. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que je viens de citer. Le deuxième, nous régnerons dans la vie avec Jésus-Christ. Et puis le troisième, nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus puisqu'il est dit dans 1 Jean 4:4, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors Seigneur, comment se fait-il que tu me donnes des paroles de certitude et que je suis moi-même vaincu au lieu d'être vainqueur? Et David s'est retrouvé dans cette même situation, c'est-à-dire que David s'est retrouvé à être vaincu à ce moment-là pendant 13 ans au lieu d'être vainqueur. On se retrouve dans la vie de David. Mardi dernier, on parlait sur le combat spirituel et on échangeait sur cette séquence où David s'est retrouvé confronté à son Goliath. Et au travers de tous ces textes, de tous ces épisodes et toute cette vie de David, on retrouve vraiment des caractères du chrétien. Et là, je retrouve franchement que parfois, il y a comme quelque chose qui nous ressemble dans cette vie de David. Tu me rends vainqueur, ça c'est une parole, mais j'ai besoin de la vivre. Alors j'aimerais voir avec vous des obstacles qui ont empêché David de régner pendant tant d'années. David était un roi selon l'esprit, Saül un roi selon la chair. Déjà là, ça ne colle pas. Déjà là, il y a quelque chose qui pose problème. Galates chapitre 5, verset 17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Écoutez-moi bien. La chair s'opposera toujours à l'esprit. Il vous empêchera d'accomplir les desseins de Dieu dans votre vie. Ça s'oppose, ça ne peut pas aller entre la chair. Il y a une relation contraire. Il est dit, l'esprit est de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il y a incompatibilité entre la chair et l'esprit. Il y a incompatibilité entre David et Saül. Il y a incompatibilité avec cette approche-là. Et nous retrouvons dans Saül, en Galates chapitre 5, verset 19, il est dit, or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Comme David, nous pouvons être des rois sans trône à cause de tout ça. À cause de tout ça, nous pouvons être des rois sans trône. À cause d'un Saül sur notre chemin. Alors que la Bible déclare dans Éphésiens 2:6, et je le rajoute, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et nous sommes, et ça c'est, on le retrouve dans l'Apocalypse, il est dit, nous sommes des rois, puisqu'il est dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes un royaume, frères et sœurs. Nous sommes des rois, mais sans trône. Certains n'arrivent pas, n'ont pas pu monter sur ce trône. Parce que certains savent que Dieu est tout-puissant, il est fort, il est redoutable, il est extraordinaire, mais eux, ils sont encore en bas de l'échelle. Ils n'arrivent pas à monter. Ils proclament un Jésus vainqueur, mais eux, ils sont dans la défaite. Et comme ce David, eh ben, on se retrouve comme en décalage, comme quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que nous devons faire du ménage dans notre vie, dans notre propre vie chrétienne. Et c'est ce que David, lui, il a compris à un moment donné, il a dit, il faut que j'arrête avec ce Saül. Il me poursuit, certes, mais moi, j'ai une position à prendre vis-à-vis de lui. Et cette position, je la trouve dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Il a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ce texte est fort. Il dit, sortez du milieu d'eux. Sépare-toi. Coupe les ponts. Mets de la distance, comme il est dit dans ce passage. Il est dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Remarquez les deux versets, sortir et séparer, c'est à toi de te séparer. Tu auras beau dire à Dieu, Seigneur, permets que vraiment la personne ou ce Saül s'éloigne de moi, alors que toi-même tu t'es approché de ce Saül. Et le Seigneur te dit, si tu t'es approché, tu vas être capable de t'en éloigner. Moi je vais te donner la force, mais c'est à toi de prendre position. La parole de Dieu nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. Mais c'est à toi d'être ferme dans tes sentiments, dans ta position. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Ça, c'est comme ceux qui sont addicts à des films porno à télévision. Ils disent, Seigneur, coupe la télévision. Non, toi, tu vas te lever, tu vas l'arrêter à la télévision. C'est à toi de faire la démarche. Et lui, le Seigneur va t'enlever cette addiction. Mais c'est à toi de prendre position. Et là, dans ce passage, c'est exactement la même chose. Dans ce passage, il y a quelque chose de terrible, c'est que le Seigneur nous demande de sortir du milieu d'eux, de séparer. Et parfois, par charité chrétienne, nous n'osons pas nous séparer du Saül. On se dit, ouais, mais Seigneur, si je peux le toucher. En attendant, c'est lui qui te touche. Tu dis, ouais, mais Seigneur, si je peux, par mon témoignage, l'attirer au Seigneur. En attendant, c'est lui qui t'attire vers lui. Il t'attire dans ses influences, il t'attire dans ses positions, il t'attire dans ses manières de penser, cette manière de voir, de te détruire. Comme si toi, tu pouvais avoir une influence aujourd'hui, c'est lui qui te domine, c'est ce Saül qui t'écrase. Et là, David, à un moment donné, il a compris qu'il y avait comme quelque chose qu'il devait faire, il devait se positionner. C'est pour ça que Paul avertit chez les Corinthiens, en Corinthiens chapitre 15, verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Vous mettez un bon fruit dans un panier de fruits pourris, vous allez voir qu'il va être contaminé. Alors Dieu dit, tu sors de ce panier pourri, parce que c'est toi qui vas être contaminé. J'ai parfois rencontré des jeunes qui m'ont dit, vous savez, frère, je vais en boîte de nuit le samedi pour évangéliser les gens. Et la plupart des jeunes qui ont fait ça sont restés en boîte de nuit, après à boire, à se droguer et tout ce que vous voulez. Ils ont été contaminés par un milieu hostile. On ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit, c'est par toi. Et si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Tu auras beau crier à Dieu, demander à Dieu de l'aide, il t'aidera dans la mesure où toi, tu te positionneras. Et David a dû se positionner à un moment donné. C'est pour ça que dans Parole de vie, il dit, attention, c'est le même verset, mais dans Parole de vie, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Dans le français courant, il est dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Tu as des valeurs, tu as une bonne conduite, et tu as eu peut-être cet héritage de tes parents, de ta famille chrétienne et tout, peut-être pas, mais qui ont des valeurs en tout cas. Puis au contact de ces personnes, ça a été comme une ruine dans ta vie. Toutes ces valeurs ont explosé, tu ne penses plus comme tu pensais avant, tu ne réagis plus comme tu réagissais avant, tu ne parles plus comme tu parlais avant. Avant, tu ne sortirais pas un seul gros mot, alors que maintenant, tu en mets 10 dans une phrase. Et pour toi, ça ne te fait plus rien, quelque part. Et il y a comme quelque chose qui est là. Darby dit ceci, ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et là, Darby, j'aime bien parce qu'il dit, ne soyez pas séduits. Séduction vient du diable. Le mot séduction vient du diable. Le diable nous séduit. Le diable nous aveugle. Le diable est là complètement à nous happer. Je me rappelle un jour d'une personne qu'on avait un entretien avec Isabelle, cette jeune fille, 19 ans, elle vient, elle nous confesse, c'est pas ici dans cette église à Bastille, mais elle nous confesse son problème, son mal-être, et dit « je suis avec un copain, ça fait des années qu'on est ensemble, on va dans des rêves parties, tout ça, et là j'en ai marre avec mon copain », elle se met à pleurer, dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on le voyait plein de bleu, me dit « mais il me frappe, et je suis frappé, je suis, à chaque fois il me donne des coups de poing, tout ça, il s'énerve dès qu'il commence à boire et tout. » Et j'ai dit « mais pourquoi tu t'arrêtes pas avec ce Saül, finalement, quelque part. Non, je l'aime. » C'est une séduction, ça. Aimer quelqu'un qui vous frappe, qui vous massacre, que vous allez à l'hôpital parfois parce que vous êtes en syncope. Quelqu'un avec qui il est, elle n'est pas mariée, il n'y a rien du tout. Et là, à ce moment-là, elle est comme happée, comme saisie par cette séduction de cet homme. C'était plus fort qu'elle. Et elle se faisait massacrer. Comme pour vous dire que dans ce même parallèle, parfois, on peut être séduit par des situations, par des paroles de gens qui sont là. On les boit, mais elles nous font mal en même temps. Et quand elles ne sont pas là, il y a comme un manque, quelque chose de malsain qui est là. Et on a envie d'y retourner. C'est incroyable comme la séduction peut essayer de nous tirer vers le bas. Alors, nous avons besoin de protection divine, un bouclier spirituel sur notre vie. Et David va écrire un chant sur ce sujet. Ce chant, c'est dans le psaume 139, verset 5. Il dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta bonne main sur moi. » Mais pour être protégé, il fallait que David se sépare de Saül. Parce que Dieu ne va pas protéger David et Saül en même temps. Saül, c'est l'ennemi. Saül, c'est ce qui détruit. Saül, c'est ce qui t'enfonce, c'est ce qui te brise. Et le Seigneur dit, moi, je veux te protéger, je suis capable de te protéger, je suis capable de poser ma main sur toi. Mais il faut que toi, tu fasses le pas de dire stop, ça suffit, il faut que j'arrête, il faut que je sorte de ce milieu hostile qui me fait du mal. Et c'est à partir de là que Dieu va commencer à poser sa main. Parce qu'il ne peut pas se poser sa main de bénédiction sur le bien et sur le mal en même temps. Dieu saint ne peut pas se mettre au contact avec le péché et l'impureté. Le Seigneur voudrait que tu comprennes cela ce matin. Et le premier pas que tu dois faire ce matin, c'est de te séparer de ce Saül. De ce Saül qui nuit à ta vie. De ce Saül avec qui tu as un contact malsain, qui est là, qui vraiment, je dirais, t'enfonce. Après avoir mis de l'ordre à l'extérieur avec ce Saül, nous devons mettre de l'ordre à l'intérieur. David a tué l'ours. David a tué le lion, David a tué le Goliath, mais David avait besoin de tuer le vieil homme, charnel, ce qui était là dans sa vie. C'est bien de couper les ponts avec ce qui te fait du mal, ce Saül qui vient pour te détruire, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus que Dieu veut faire. Le vieil homme a de multiples facettes, ça peut être la colère dans ta vie. Je me rappelle un jour, un frère me dire, mais vous savez frère, moi je suis comme je suis, hein. On me prend comme ça. Eh bien non, on ne peut pas prendre les gens comme ça. Et si la colère domine sur ta vie, à vouloir, excusez-moi l'expression, pourrir toute la famille, se retrouver de suite à partir au quart de tour avant de venir au culte parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, et puis on continue dans la voiture à crier sur le fiston, à crier sur la fille, à crier sur l'épouse, et puis après on vient à l'église et on lève la main, c'est quoi ça? C'est pas possible. Et il y a comme quelque chose qui va prendre place. C'est juste incroyable de pouvoir... Et on ne peut pas faire avec. On ne fait pas avec l'homme charnel. On n'est pas là pour l'adopter, pour le dompter. On n'est pas là pour le maîtriser. On n'est pas dans une culture hindouiste. On n'est pas là dans une philosophie. On est dans le christianisme. Le christianisme retire le péché. Le christianisme retire les vices, les passions, retire les mauvaises épines. Pas là pour enfouir en disant « t'acceptes les choses comme ça vient ». Ça, c'est pas du christianisme. Les religions vous diront « faut faire avec ». Acceptez ça et puis essayez de maîtriser un peu votre colère tant qu'on peut. Puis de temps en temps, prenez un cachet si ça part trop en vrille. Non, mais le Seigneur dit « moi, je te sors ça. Moi, je te retire cette épine. Je t'enlève ce vieil homme. Je t'enlève cet homme charnel parce que tu peux pas régner comme ça. Tu peux pas monter sur le trône alors que tu as ça dans ta vie. » Tu ne peux pas être une référence alors que tu risques de porter un témoignage juste exécrable par ton attitude, ton comportement et ta façon d'être. Monter sur le trône dans notre famille, dans notre foyer, c'est ça le témoignage. Montrer après à nos enfants qui nous sommes, alors que peut-être pendant toute ta vie tu as été en colère et tu as eu une attitude juste pas possible, mais à l'église tu as fait une facette et peut-être un visage très spirituel. Mais dehors, ce visage, tu l'enlèves et tu es toi-même. Et ça, c'est plus possible. Tu ne peux plus te cacher comme ça. Être vainqueur, c'est se battre et sortir de cette situation. Et je parlerai aussi de la critique. Un ado m'avait confié un jour, ça m'avait interpellé, me dit, mais pasteur, moi jamais je ne deviendrai ni chrétien ni pasteur. Ah, d'accord. Pourquoi ? Chrétien, parce que déjà, il y a trop de critiques, il y a pas mal de gens qui se parlent comme ça, qui parlent mal les uns les autres. Mais pasteur, si vous savez à la maison, papa et maman, quand ils parlent du pasteur, ils disent, mais ils leur font une veste tous les dimanches à midi ou dimanche soir. Ils disent, mais moi, j'ai pas envie qu'un jour on parle mal de moi comme ça si je suis pasteur. Alors jamais je ne deviendrai pasteur. Et nos enfants, on en fait des monstres. C'est-à-dire qu'on leur transmet quelque chose qui est en nous. Ce mal qui est en nous, cet homme charnel, on nous dit, mon enfant, tiens, prends-le toi aussi. Au travers de cette attitude, au travers de ce comportement, au travers de cette façon de faire. Et puis après, un jour, quand ils vont grandir, on dit, mais je ne comprends pas comment il agit, notre enfant, comment il se comporte. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a éduqué. Eh bien oui, parfois oui, et on ne s'en est pas rendu compte. Ça a des conséquences, même sur notre foyer, cette affaire-là. C'est pour ça que cet homme charnel, tu as besoin de l'écraser, de le mettre sous tes pieds, parce que Dieu a pris autorité sur ça. Mais c'est à toi de te positionner. Et là, David l'a compris, sur l'animosité. Parlons du murmure. Le murmure, vous savez ce que ça a fait, le murmure ? C'est dans le murmure que finalement le peuple n'a pas pu rentrer dans Canaan, à cause du murmure. Rien que le fait de parler et de rougner à l'intérieur de nous par rapport à des certaines situations. L'impureté, le mensonge, la Bible nous dit que c'est du diable. C'est le diable et le père du mensonge. Que dire de la tromperie ? David a été adultère et meurtrier, ce qui engendra mensonge et tromperie. Oh, il sait de quoi il parle. Quand on parle de ça, lui, il savait de quoi il parlait. Mais dans un psaume, il fait une confession magistrale. Et c'est là où il s'est occupé de lui-même, de cet homme charnel. Écoutez-moi bien, parce que là, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Dans le psaume 32, verset 3, il dit ceci, vous le connaissez très bien ce texte, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Écoutez-moi bien. Le verset 5 est capital, parce qu'il est dit dans ce verset 5, « Je t'ai fait connaître. Je n'ai pas caché. » Et il dit, « J'avouerai. » À un moment donné, il faut arrêter de se cacher. Il faut arrêter de paraître. Il faut arrêter de mettre tout au fond. On dit, on verra un peu plus tard, et puis au fur et à mesure des années, ça va s'apaiser dans mon cœur. Non, tu n'y arriveras jamais comme ça. Tu subiras tout le temps ta vie. Tu n'arriveras jamais à monter sur le trône tant que tu n'as pas réglé ton problème de cœur. Tu n'arriveras jamais à régner et à vivre ta vie spirituelle. Tu la subiras tout le temps, et tant que tu seras dans cette position-là. Et David, lui, il a compris ça. Alors il a commencé à déposer cela. Je t'ai fait connaître, je n'ai pas caché, j'avouerai. David libère la parole avec une vraie transformation, puisqu'il dit, tant que je me suis tu, mes yeux se consumaient. Combien de fois tu as vu des gens, ils sont venus te voir en disant, oh frère, oh, c'est formidable, qu'est-ce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ah, oh, je suis fier de toi, tu es vraiment un modèle. Et toi de te dire, ah, si tu savais. Et toi, quand on est comme ça, c'est qu'il y a un problème à régler. C'est qu'on est un David qui a besoin de résoudre son problème intérieur, ce tome charnel. Quand on commence à raisonner comme ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à résoudre. Et c'est pour cela que lui, David a dit, tant que je me suis tu, j'avais une position de roi, j'avais une position qui était importante. Vous imaginez, si les gens savaient ça, c'est incroyable. Quel témoignage allait rendre ? Non, le vrai témoignage, c'est que quand tu libères ta parole. C'est pour ça qu'il est dit dans ce passage que Dieu te demande de libérer la parole. La parole est libératoire. Devant lui, devant le maître, devant le Seigneur, tu vas crier à Dieu. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Il faut que tu libères à un moment donné la parole. Pendant combien de temps tu vas faire du cache-cache avec Dieu ? Pendant combien de temps tu vas garder ça et puis dire, on verra bien, à fermer les yeux ou faire comme l'autruche, à mettre la tête dans le sable et puis on laisse passer le temps. Non, comment tu pourras vraiment saisir le trône de Dieu en te positionnant comme cela, briser ce trop plein de pression, ce cœur lourd, ce nœud au ventre, tu as besoin de le faire. Vendredi, j'étais ici de permanence et j'ai quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas qui c'est, il n'a pas voulu dire son nom, en tout cas au départ, puis après il m'a dit juste son prénom. Quelqu'un de très discret me dit, voilà, j'ai téléphoné à plusieurs endroits, à droite, à gauche, et on m'a raccroché au nez, j'ai vraiment quelque chose et je ne sais pas si je peux vous partager cela, échanger avec vous. C'était quelqu'un de fermé, d'assez méfiant au téléphone. Je dis, mais dites-le, vous savez, on entend plein de choses et nous ne sommes pas là pour vous juger, on est juste là pour essayer de résoudre votre problème. Et il a mis une demi-heure avant de me dire son truc. Et il a déposé sur la table, boum, comme un poids, mais quelque chose juste d'énorme qui était là sur la table. Je dis, waouh! Et puis on a commencé à échanger, mais je me suis aperçu que ce n'était pas le plus gros du problème. Et au fur et à mesure, alors qu'il avait lâché le gros de la situation, au fur et à mesure, il me sort toutes sortes de choses de son passé, de son histoire, de sa vie. C'était juste incroyable ce qu'il avait vécu, cet homme. Des blessures juste monumentales. Et c'est au bout d'une demi-heure de temps, alors qu'il a commencé à libérer la parole. Et puis il a débité plus d'une heure et demie. On a parlé ensemble. Et à la fin, il m'a dit, pasteur, je suis extrêmement soulagé. J'ai comme un sentiment de voler maintenant. Je n'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Il a libéré la parole. Il a senti au bout du fil qu'on n'était pas là pour le juger. Et puis, de toute manière, il y avait une telle distance que je ne savais même pas qui c'était. Il ne m'avait pas dit son nom, où il était, où il vivait, rien du tout. Il m'a pris comme ça. Et j'ai voulu respecter cette intimité. Et il est peut-être là ce matin parce que je l'ai invité à venir au culte aujourd'hui, en tout cas ce matin ou cet après-midi, de venir me voir. Je ne sais même pas qui c'est, il est peut-être là cet après-midi, ce matin. Et on va parler ensemble, on va échanger parce que j'aimerais bien l'avoir maintenant de visu. Et puis qu'on puisse aller plus loin dans sa victoire, qu'il puisse saisir la bénédiction. Écoutez-moi bien, il a libéré la parole et tu as besoin de libérer la parole. Tant que tu vas te taire, tes eaux vont se consumer. Et tu pourras beau lire la parole de Dieu, lire les promesses divines. Elles seront pour les autres, mais elles ne seront pas pour toi tant que tu ne libéreras pas ta parole. Tant que tu ne la lâcheras pas prise sur ta situation. Deuxième étape. David va encore plus loin. Il ne va pas seulement libérer sa parole, mais après cette parole libératoire, il va s'attaquer à son cœur. Dans le psaume 139, verset 23, vous voyez, c'est pas rien pour monter sur le trône. Hein. Psaume 139, verset 23, il dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu. » Voilà, là c'est du lourd. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous avons affaire à quelqu'un d'extrêmement honnête, là. Quelqu'un d'extrêmement honnête. Comme tout à l'heure, je vous partageais cet homme au téléphone. À un moment donné, il a été extrêmement honnête sur sa vie, sur sa situation, sur sa position, sur ce qu'il était. Avec lui-même, David était honnête avec lui-même, mais il était honnête aussi avec Dieu. Et vous savez, pour un leader, il est un exemple d'humilité, de renoncement à lui-même. Et pas seulement pour les leaders, mais quand on est leader dans une église, on a difficilement la parole facile à épancher notre problème, nos luttes, nos combats, parce qu'on se dit, mais voilà, qu'est-ce que va me penser le pasteur, qu'est-ce qui va se passer s'il voit mon côté faible, peut-être il va me retirer de ce poste, de cette responsabilité, ça c'est un leurre de l'adversaire. Et c'est comme ça que parfois, malheureusement, on a vu des hommes tomber, parce qu'ils se sont tus de peur qu'eux. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, cet homme David, il a été extrêmement honnête avec Dieu. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Je suis prêt à ce que tu viennes vraiment passer un scan et puis regarder ce qui ne va pas, de me le dire et que je puisse le régler. Et il est allé plus que... C'était plus loin que la parole, c'était une démarche de cœur, une position de cœur. Et le Seigneur, il a été là, il a posé sa main, il a agi de manière extraordinaire sur sa vie. Dieu a commencé à panser les plaies, à consoler, à guérir, à restaurer. Dieu a commencé à agir dans la vie de David. Et quand vous voyez le ministère de David, et si on est capable aujourd'hui de prêcher David, c'est parce qu'il a été capable, lui, d'être extrêmement honnête. Si aujourd'hui on est capable de lire la vie de David et se faire du bien par ses récits, pourtant il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations juste rocambolesques, mais malgré tout ça, il retombe toujours sur ses pattes parce qu'il se positionne toujours avec Dieu, parce qu'il est extrêmement honnête avec Dieu. Parce qu'il est droit avec Dieu. Oui, il a fait des bêtises. Oui, il a fait des erreurs. Qui n'en a pas fait des erreurs? On a tous fait des erreurs. On a tous un jour trébuché. On a tous eu un parcours chaotique. On a tous désobéi à un moment donné à Dieu. On le paye, ça. Tôt ou tard, de toute façon, ça se paye. Mais à un moment donné, quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé et qu'on crie au Seigneur, eh bien, lui nous fait grâce. Il nous relève, il nous fortifie. Il ne va pas nous écraser en disant, ah, t'as vu, je t'ai vu, hein. Eh, maintenant, tant pis pour toi, tu restes dans ta position. Non, lui ne le fait pas. Les hommes le feront, mais pas lui. Lui te relèvera. Alors, sois extrêmement honnête avec lui. Sois vrai avec lui. Libère la parole. Et permets-lui de sonder ton cœur, sonder ta vie. Que vraiment, il vienne scanner le plus profond de ton être entier. Parce que regardez ce qui va se passer. Il va y avoir une répercussion sur sa vie. David épargne à deux reprises la vie de Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 24, et au chapitre 26. Déjà, premièrement, dans la caverne d'En-Gedi. Et puis, dans le deuxième point, c'est dans le campement au désert de Ziph. À chaque fois, il a eu l'occasion de le tuer, ce Saül. Mais il dit une parole extraordinaire, il dit « Loin de moi de porter la main sur le oint de l'Éternel ». À ce moment-là, frères et sœurs, il avait la possibilité de tuer Saül, mais il n'est pas tombé dans la vengeance. Vous savez pourquoi il n'est pas tombé dans la vengeance? Parce qu'il a dû se rappeler ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 30, même s'il n'était pas encore écrit, mais Dieu l'a inspiré par le Saint-Esprit. Il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Tu n'es pas là pour te venger, tu es là pour monter sur le trône. Dieu s'occupe du reste. Tu as été blessé, tout ça, tu as été percuté, tu as été vraiment violenté. Règle ton problème de cœur pour le reste, pour Saül. Si tu t'es séparé de lui, Dieu réglera son problème. Ce n'est pas à toi de le faire. Toi, ton seul objectif, ta seule pensée, c'est de monter sur le trône. C'est de régner avec lui dans les lieux célestes, comme nous est dit dans la parole de Dieu. David a compris qu'il n'avait pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est marqué dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens. Le défi a été spirituel, le trône était en jeu. Et nous avons des enjeux spirituels. Nous ne devons pas passer à côté de la bénédiction. Je ne sais pas, mais vous savez, dans la parole de Dieu, il nous a dit qu'à un moment donné, Saül est décédé. Il ne s'est pas réjoui de sa mort. Il n'a pas dit « Ouais, super, je suis libre maintenant ». Non, il avait été libre avant. Frères et sœurs, certaines personnes qui ont subi, je me rappelle un jour d'un jeune avec son papa, ce jeune ça s'est mal passé, c'était vraiment une fracture du passé, de son histoire, il était fracassé, il était frappé tout le temps, il était rejeté tout le temps, il était mal aimé tout le temps. Et je me rappelle ce jeune dit, vous savez, tant que mon père n'est pas mort, je ne serai pas libre. Mais c'est faux ça. C'est un leurre de l'adversaire, ce n'est pas la mort qui va te libérer, c'est Jésus-Christ qui va te libérer. C'est Dieu qui va te libérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte, dans ce passage? C'est que lui, David, il a été déjà libéré, il était déjà libre. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que Saül soit mort ou pas, qu'il soit, je dirais, vivant et de partout, ça n'a aucune importance, aucune incidence dans le cœur de David. Il était plus que vainqueur déjà là. Alors comprenez-moi bien, frères et sœurs, ce n'est pas le contexte, les circonstances de la vie qui vont changer, ta situation, c'est ta position. C'est ta position qui va te changer. Ce n'est pas les circonstances autour. Ce n'est pas ton Saül, qu'il soit mort ou vivant, peu importe. Toi, il faut que tu sois déjà libre avant, libéré avant. Parce que tu as une position de vainqueur en Christ, dans le Seigneur, dans ta vie, dans ton cœur. Et ça, c'est important. Alors, vous savez, il est dit dans ce passage, il va même bien plus loin, parce que Saül dit, David dit plutôt, David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes furent dans le deuil, pleurant et jeûnant jusqu'au soir sur la mort de Saül. Vous imaginez un David traqué par Saül, persécuté par Saül. À plusieurs reprises, Saül a voulu tuer ce David. Lui, il a été complètement libéré. Il était entre les mains du maître. Il a libéré son cœur, il s'est éloigné de Saül, il a laissé Dieu faire agir dans sa vie. Mais quand il est mort, il a déchiré ses vêtements face à Saül. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait rien sur lui, rien contre lui. Il n'avait aucune haine. Il n'avait aucun esprit de vengeance. Il est venu bénir ceux qu'il avait maudits. Et la parole de Dieu nous dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». C'est-à-dire qu'il est allé extrêmement loin, David. C'est pour ça que la parole de Dieu, quand David il dit « Sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi, cœur. » Il dit « Si tu fais ça, attention. » « Oui, oui, sonde-moi, Dieu. Attention, si je sonde, je vais te demander beaucoup de choses. Oui, mais fais-le. » Et là, Dieu est venu dans la vie de David et il lui a fait ça. Il lui a dit « Voilà, tu vas l'aimer maintenant, ton Saül. » Il t'a détesté, il a voulu te détruire, il a voulu te tuer, mais toi, tu vas l'aimer. En compensation, tu vas l'aimer. Il te déteste, mais toi tu l'aimes. Et ça, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de la croix, c'est de dire à la croix, et c'est Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus n'est pas venu avec un esprit de vengeance détruire l'humanité, parce que cette humanité l'a détesté, parce que cette humanité a vociféré « Crucifions-le, on ne le veut plus sur notre vie ». Non, il a apporté l'amour là où il y avait la haine. Il a apporté la vie là où il y avait la mort. Il a apporté la bénédiction là où il y avait la malédiction. C'est-à-dire que Dieu a dit à David, tu vas faire quelque chose qui ne soit pas humain, qui sera spirituel. Et ce spirituel, c'est de déchirer ses vêtements. Et comme il est dit dans ce passage, il saisit ses vêtements et le déchira. Et tous les hommes furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir de la mort de Saül. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est ça être vainqueur. Un vrai chrétien, quand je dis un vrai chrétien, un chrétien vainqueur, c'est un chrétien qui est capable d'être comme ce David, d'être vainqueur sur sa vie, sur cet homme charnel dans son cœur, sur ce Saül dans sa vie. C'est ça un vrai vainqueur. On parle souvent de victoire par-ci, de victoire par-là, mais la vraie victoire, c'est quand il y a une victoire personnelle dans ta vie, personnelle, dans ton cœur personnel. C'est ça la vraie victoire. C'est quand dans ton cœur, tu ne subis plus. C'est quand dans ton cœur, tu marches la tête haute, avançant, fier d'être chrétien, de marcher avec Dieu. Et de ne plus être en conflit dans ton cœur entre des versets que tu lis et des textes que tu ne vis plus. Des paroles de Dieu de victoire alors que toi tu es dans la défaite. Il faut que tu inverses cette position aujourd'hui, que tu fasses comme David, qui lui s'est séparé de Saül et qui est venu avec un cœur extrêmement honnête devant Dieu en disant « Maintenant Seigneur, tu scannes tout ça, tu m'en montres ce qui ne va pas. Jusqu'au plus profond des choses qui ne tournent plus rond, il faut que tu agisses. » Et vous savez le résultat, et je vais terminer avec ça, le résultat, c'est que maintenant David était prêt au trône. À partir de là, il était prêt au trône. Aucun obstacle pour régner. L'obstacle, c'était Saül, mais c'était aussi son moi. C'était sa vie. C'était ça le vrai obstacle. C'était son problème. Le problème, c'était lui-même. Souvent, on demande à Dieu, Seigneur, viens agir, manifeste-toi. On fait toutes sortes de combats spirituels, mais le vrai combat, c'est toi. Parfois, on s'attaque à l'ennemi, à Satan. Mais le problème, c'est toi, souvent. C'est ta vie. Tu as besoin d'être honnête, extrêmement honnête avec Dieu, de laisser Dieu passer sur ta vie, passer sur ton cœur et te dire ce qui ne va pas, et réellement ce qui ne va pas, et réellement te dire, voilà ça, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela. Je crois que tu as besoin vraiment de réaliser cela ce matin. Il y a une chose qui n'a pas trompé David, c'est dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 2, il est dit, David consulta l'Éternel. Et puis un peu plus loin, au verset 4, il dit, David consulta encore l'Éternel. C'est-à-dire qu'après toute sa vie, il a passé à consulter Dieu avant d'aller plus loin. Alors qu'avant, il y allait, il remplit de l'onction de Dieu, mais il y allait un petit peu à la bonne franquette, à la sensation, à sa façon de voir les choses. Mais à partir du moment où il a été touché par Dieu, qu'il a commencé à se séparer de ce Saül, qu'il a commencé à laisser Dieu poser sa main sur lui, à scanner son existence, à scanner son cœur et d'être extrêmement honnête avec le Seigneur, et bien il a commencé à prier. Toute sa vie, il a passé à consulter Dieu pour pouvoir agir, afin de ne point faire de bêtises. Toute sa vie, il a pris du temps avant de prendre les décisions, il a pris du temps devant Dieu pour que ce soit lui, Dieu, qui prenne les décisions sur sa vie. Et c'est à partir de là qu'il est monté sur le trône. C'est à partir de là qu'il a commencé à régner. Oh, entre nous, il n'était pas parfait, hein, même sur le trône. Mais il a enlevé tous les obstacles qui pouvaient l'empêcher de monter. Et Dieu voudrait que ce matin, tu enlèves tous les obstacles. Ces obstacles qui t'empêchent de monter. Tout ce que tu subis, que t'empêche de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Que tu puisses vraiment réaliser que il y a un Saül qui te pourrit la vie. Et ce Saül-là, il faut dire stop. Sépare-toi de ce qui est mauvais, de ce qui est malsain. Ce que nous dit Paul, séparez-vous, dit le Seigneur, c'est à toi de le faire. Et puis après, de venir à Dieu en disant, voilà maintenant, je me suis séparé de ça. Maintenant, tu scannes ma vie, montre-moi, coupe-toi de moi, de mon cœur. Montre-moi, j'ai envie d'être extrêmement honnête avec toi. Dis-moi comment il faut faire. Il y aura des choses que tu vas faire qui vont te surprendre de la part de Dieu. Peut-être que comme quelque chose qui va faire que ça va être troublant. Mais tu vas le faire quand même. Tu vas faire comme ce David face à Saül, qui l'a traqué toute sa vie devant sa mort. Il n'a pas été là étant fier, en le regardant, en disant, toi, je t'ai eu. Non. Non, non, il est venu tout simplement. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il y a eu la marque de Dieu sur sa vie. Il a détruit la haine, le péché, tout ce qui entourait sa vie par l'amour de Dieu sur son cœur, par l'amour de Dieu sur sa vie. Il n'a pas voulu être dominé par la vengeance. Il n'a pas voulu être dominé par tout ce qui pouvait, je dirais, être contraire à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. À toi d'y rentrer ce matin.